France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais m'arrêter non pas sur l'écriture d'un compositeur, mais sur un genre musical qui fait évidemment la part belle à l'orchestre, c'est le poème symphonique. Mais je vais quand même évoquer au début un compositeur en particulier, car le poème symphonique est l'invention d'un homme, Franz Liszt. Son idée, je le cite, « procurer à l'auditeur les mêmes sensations ou les mêmes impressions de poésie qu'à la lecture d'un texte ou une promenade dans un paysage. » Son tout premier, et donc le premier poème symphonique de l'histoire, s'intitule « Ce qu'on entend sur la montagne ». C'est le titre d'un poème de Victor Hugo. On comprend qu'il est inspiré Liszt, car on peut y lire « Le monde, enveloppé dans cette symphonie, comme il vogue dans l'air, voguait dans l'harmonie. » Cette évocation de la nature d'abord mystérieuse, puis douce et épanouie, et qui changera encore beaucoup durant les 30 minutes que dure ce qu'on entend dans la montagne de Liszt, ici dirigé par Bernard Haitink, eh bien c'est donc le premier exemple de poème symphonique, dénomination inventée par Liszt. Jusque-là, Liszt était surtout associé au piano, dont il est un virtuose inouï. Sauf que, lorsqu'il est nommé en 1848 à la direction de la musique de Weimar, art, il dispose d'un orchestre d'excellent niveau, ce qui stimule son désir de composer de la musique symphonique. Liszt se classe à l'époque dans le camp des novateurs. Il crée par exemple Lohengrin de son futur gendre, Richard Wagner, et comme les romantiques, la musique exprime pour lui l'essence du monde. La symphonie a connu son apogée avec Beethoven. À l'époque, elle semble s'essouffler. Liszt pense qu'il faut la régénérer. Alors, plus de division en quatre mouvements, mais une composition d'un seul tenant. Plus de musique pure, mais on se réfère à un contenu extérieur, qui peut être littéraire, pictural ou autre. Déjà, dans sa pièce pour piano Mazeppa, Liszt se référait à un poème de Victor Hugo, qui évoque un cosaque ukrainien, dont la chevauchée exige une grande virtuosité. Tchaïkovski en fera un opéra de ce héros ukrainien Mazeppa qui se retourna contre le tsar Pierre le Grand pour défendre l'indépendance de l'Ukraine tout en cherchant une alliance avec Istanbul au moment où les Russes menaçaient la Crimée. Décidément, l'histoire bégaye parfois. Liszt y fait référence dans la quatrième étude d'exécution transcendante qu'on écoute là par Bertrand Chamaillou, mais sans vraiment suivre un récit linéaire. À Weimar, avec le grand orchestre, Liszt revient à Mazeppa et ses cavalcades, main droite, main gauche du piano, sont maintenant réparties entre cordes et cuivres déchaînés. On écoute Zubin Mehta. grande différence entre l'étude pour piano et le poème symphonique intitulé Mazeppa, c'est la longueur. La pièce pour piano dure 7 minutes et celle pour orchestre un bon quart d'heure. Ça permet de raconter une histoire, on a l'impression de suivre le cosaque qui chevauche, tombe et ressuscite. Liszt a composé en tout 13 poèmes symphoniques, presque tous autour de 1850, inspirés certains par une œuvre littéraire, d'autres par un tableau. Le plus connu, eh bien, ce sont les préludes, inspirés d'un poème de Lamartine. J'aimerais m'y arrêter et vous donner des clés d'écoute aussi pour comprendre comment fonctionne un poème symphonique dans l'idée de Liszt. C'est donc une pièce d'un seul tenant, de 16 à 17 minutes en l'occurrence, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas divisée en épisodes, mais ceux-ci sont enchaînés et non pas séparés artificiellement comme les mouvements d'une symphonie. Ensuite, il faut l'évocation d'une source non musicale. Là, c'est un poème, mais pas de manière littérale non plus. On n'est pas dans la musique descriptive. Les préludes, c'est plutôt l'évocation des âges de la vie d'un être humain, de son bonheur, de ses tourments, du rapport à la nature, du combat pour sa propre liberté. Et cela, Liszt le fait avec toujours les mêmes thèmes très réduits qui reviennent transformés de manière cyclique. Un certain Richard Wagner saura s'en souvenir. Alors on y va. On commence par une entrée en matière, deux pizzicati et une phrase ascendante de trois notes ta-ra-ram, qui servira de base à tout l'édifice. Ce thème de trois notes, dont César Franck se souviendra au début de sa symphonie en ré mineur, c'est l'homme qui émerge des ténèbres, ou plutôt du silence. Liszt va se servir de ce motif de trois notes presque comme d'une pâte à modeler. Il va le répéter, l'enfler, le faire tournoyer. L'harmonie devient incertaine, majeure dans les cordes, mineure dans les vents, grand crescendo soutenu par la harpe, et au point culminant, un nouveau thème dérivé du premier, avec toujours trois notes au début, mais cette fois très affirmé, pointé en ut majeur, au trombone. Pam, 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 pam. Cette fanfare, c'est l'entrée de l'homme dans la vie avec un côté conquérant. Mais maintenant, place à la douceur, du bonheur, toujours notre cellule de trois notes. Elle a été mystérieuse au début, elle a été conquérante. Maintenant, elle est lyrique. ce grand chant lyrique au violoncelle s'étend à toutes les cordes jusqu'à déboucher sur un nouveau thème qui en est dérivé avec les altos et les cors, combinaison originale. Alors c'est toujours le bonheur, mais cette fois le bonheur amoureux. Vous entendrez une douce barcarolle à laquelle les violons finissent par donner un tour beaucoup plus passionné. Wagner a fait son miel de ses trouvailles de Liszt qui continuent à développer et entrecroiser ses thèmes d'amour jusqu'à ce que cette vie humaine, heureuse, rencontre des épreuves, toujours nos trois notes, mais une harmonie chromatique plus tendue, la musique plus tourmentée, c'est un orage psychologique plus que météorologique, même s'il y a le tonnerre et les éclairs au timbal et au piccolo. La tempête s'est calmée. Retour du thème d'amour au hautbois qui amène un épisode de sérénité. Alors cette fois, non pas dans la séduction, mais c'est le calme de la nature. Voici un cor pastoral avec la harpe, suivi d'une danse campagnarde à 6-8 tout en légèreté grâce à la flûte et à la clarinette. Danse pastorale sur laquelle notre thème d'amour que vous connaissez bien maintenant viendra se superposer. Thank you. beau contrepoint du thème d'amour et du thème de la nature entremêlés et qui vont continuer à enfler. Une trompette assez martiale vient s'ajouter pour arriver à un allegro. Alors si on suit le poème de Lamartine, ce serait les combats de la vie. Le thème d'amour est maintenant clamé par les cuivres sur des fusées de violon, cymbales, grosses caisses, caisses claires se mettent de la partie pour déboucher sur la grande récapitulation. Retour du thème triomphal du début au trombone, au maximum de son intensité, et une fin abrupte dont je n'arrive pas à savoir si c'est une victoire ou un coup d'arrêt. Les préludes de Liszt, Riccardo Muti dirigeant l'orchestre de Philadelphie. Nous sommes dans les années 1850. Ça y est, le poème symphonique s'est installé comme nouvelle manière d'écrire pour l'orchestre. On aura toute la semaine le précieux concours de Marie Groux à la réalisation et Benjamin Vignal au mixage pour ciseler ces guides d'écoute que j'ai prévus pour vous. On continuera dès demain avec les Tchèques. Il y aura Dvorak et Smetana. Très bon début de semaine à tous à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.